Merci d'écouter RFI, midi en temps universel. Il est 14h ici à Paris. C'est l'heure du journal. Bonjour Charlotte Hidrak.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. It's okay, ce n'est pas grave. Le président américain minimise sa rupture avec Elon Musk. Les deux anciens alliés qui se sont déchirés publiquement menacent et noms d'oiseaux, un clash en direct sur les réseaux sociaux et qui pourrait coûter cher, on va le voir, au patron de Tesla. Le conflit en Ukraine, qualifié d'existentiel par la Russie après une nuit de bombardements sur l'Ukraine. Plus de 400 drones, des missiles balistiques. Une riposte aux récentes attaques de Kiev, selon Moscou. Il n'y aura pas de calme à Beyrouth si le Liban ne désarme pas le Hezbollah. Mise en garde d'Israël après des frappes sur la capitale libanaise, malgré le cessez-le-feu en vigueur.
RFI.
À suivre aussi un congrès avant le sommet des scientifiques réunis à Nice dans le sud de la France publient leurs recommandations avant la conférence mondiale sur les océans. Un court métrage du musicien DJ Snake avec l'acteur Omar Sy en images et en musique, un coup de projecteur sur les drames de l'immigration. Et puis Yannick Sinner, Novak Djokovic, le choc des patrons ce soir en demi-finale du tournoi de tennis de Roland-Garros. Le journal des sports, c'est dans un petit quart d'heure.
Calmer le jeu après la brusque guerre des mots entre Donald Trump et Elon Musk. Selon le média Politico, le président américain assure que tout va bien.
Des propos plus modérés après les noms d'oiseaux échangés hier. Une salve de critiques, voire d'insultes via réseaux sociaux interposés sur fond de désaccords sur le budget américain. Donald Trump menace désormais de mettre fin au contrat d'Elon Musk avec l'État. Et ils sont nombreux, ces contrats. Nathanaël Vitran, cela pourrait coûter cher au patron de Tesla.
Oui, le conditionnel a de l'importance. Vous savez, comme nous les hommes sommes sensibles et émotifs, c'est ce qui nous rend si peu aptes à occuper des postes de pouvoir. Mais Elon Musk a tout de même de quoi s'inquiéter. Déjà parce qu'entrer en conflit avec le président de la première économie mondiale, c'est un mauvais message à envoyer aux investisseurs. L'action de Tesla s'est effondrée de 14% quand le clash a éclaté, avant de remonter un peu quand l'hypothèse que vous évoquiez d'un coup de fil entre les deux hommes aujourd'hui et donc d'une possible réconciliation a été évoqué. Alors certes, les cours de bourse, c'est comme les sautes d'humeur quand on a un ego fragile, ça va, ça vient.
Alors ce coup de fil, c'est pas sûr, hein. La Maison Blanche dit qu'il n'aura pas lieu, on verra. Est-ce que la menace finalement est concrète alors ?
Oui, le Washington Post avait fait le calcul, si on cumule les aides, les subventions, les commandes publiques, en 20 ans, l'empire Musk a bénéficié de 38 milliards de dollars d'argent public. Exemple avec SpaceX, l'entreprise spatiale dont les contrats qui l'unissent à la NASA et au Pentagone représentent 22 milliards de dollars. En 2024, ces contrats avec l'État fédéral ont pesé pour un quart de ses revenus. Mais attention, pour nuancer, n'oublions pas que la dépendance est réciproque. Les programmes spatiaux de Washington, y compris à visée militaire, auraient du mal aujourd'hui à se passer des services de Musk. Et quoi qu'en dise Donald Trump, il ne serait pas aisé d'inverser la tendance rapidement.
Nathanaël Vitran, Elon Musk en tout cas a annoncé dans la foulée la mise hors service de son vaisseau spatial Dragon, utilisé notamment par la NASA pour acheminer des astronautes vers la Station Spatiale Internationale. Le milliardaire, dans ses critiques, il n'a pas hésité à frapper en dessous de la ceinture et sa grosse bombe, comme il l'écrit, c'est d'accuser Donald Trump d'être impliqué dans le dossier Epstein, du nom de cet ancien financier de Wall Street, soupçonné d'avoir mis sur pied un réseau d'exploitation sexuelle de mineurs, Marine de la Moissonnière.
Sur son réseau social X, Elon Musk affirme que le nom de Donald Trump figure dans le dossier Epstein. Selon lui, c'est pour cela que les documents secrets concernant l'homme d'affaires dont dispose le gouvernement n'ont pas été rendus publics. Jeffrey Epstein s'est suicidé en prison en 2019 avant d'avoir pu être jugé. Une accusation lancée comme une bombe au milieu de plusieurs tweets rageurs. Elon Musk n'apporte aucune preuve. Les démocrates en réclament, trop contents de pouvoir retourner à leur avantage. Les théories conspirationnistes des partisans de Donald Trump. Dans le camp MAGA, on affirme depuis des années que parmi les complices de Jeffrey Epstein figuraient des personnalités d'Hollywood et des démocrates. Leur implication aurait été dissimulée par des fonctionnaires. La Maison Blanche se contente d'affirmer que les attaques d'Elon Musk sont regrettables. Avant son élection, Donald Trump, qui jurait n'avoir rien à se reprocher, se disait prêt à déclassifier tous les dossiers relatifs à Jeffrey Epstein. Il ne l'a jamais fait.
Et on reviendra sur la fin de cette bromance et ses possibles conséquences pour l'un et pour l'autre dans une dizaine de minutes maintenant avec notre invité Maud Kessard de l'IRSEM.
Donald Trump qui a par ailleurs comparé la Russie et l'Ukraine à deux jeunes enfants, je cite, qui se battent dans un parc. Formule commentée avec froideur par le Kremlin ce matin qui qualifie le conflit en Ukraine d'existentiel. Après une nuit de bombardements intensifs, une réponse aux récentes attaques ukrainiennes sur des aérodromes en Russie. La riposte est lourde, hein, Lila Olkinouora, les frappes russes ont fait au moins 4 morts.
Oui, plus de 400 drones et 40 missiles dans le ciel ukrainien dans la nuit de jeudi à vendredi. Des frappes signalées dans la capitale et dans d'autres régions de l'ouest du pays, loin du front. Une attaque massive dont le bilan précis est encore incertain. Les autorités russes ont confirmé avoir mené cette offensive en riposte aux récentes attaques de Kiev qualifiées de terroristes. Elle déclare toutefois n'avoir ciblé que des sites militaires. Une guerre des récits, donc, vous le disiez Charlotte, ce matin, le porte-parole du Kremlin a qualifié le conflit ukrainien d'existentiel pour Moscou. L'Ukraine, elle, appelle à renforcer les sanctions contre la Russie pour augmenter le coût de la guerre pour l'agresseur. Et sur Telegram, le président Volodymyr Zelensky l'assure, c'est le moment où l'Amérique, l'Europe et le monde peuvent arrêter ensemble cette guerre en faisant pression sur la Russie. Parallèlement, l'armée ukrainienne a affirmé avoir bombardé pendant la nuit deux autres aérodromes en Russie, dans les régions de Saratov et de Ryazan, au sud de Moscou. Quand on pourparlers de paix relancé ces derniers mois par le président américain Donald Trump, il semble pour l'instant dans l'impasse.
Lila Olkinouora.
Les menaces d'Israël au Liban. Le ministre de la Défense de l'État hébreu prévient qu'il pourrait y avoir d'autres frappes sur Beyrouth.
Et cela au lendemain d'une série de raids dans la banlieue sud de la capitale libanaise, bastion du Hezbollah, opération la plus massive depuis le cessez-le-feu en vigueur conclu en novembre. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
En direct de Jérusalem, alors pourquoi cette nouvelle opération? Quel est l'objectif d'Israël?
Alors écoutez, du point de vue israélien, l'objectif est clair. Israël continuera de frapper Beyrouth si le Liban ne désarme pas le Hezbollah. C'est la menace du ministre israélien de la Défense ce matin. Pour Israël Katz, il n'y aura pas de calme à Beyrouth, ni d'ordre ou de stabilité, sans sécurité pour l'État d'Israël. Ce sont des propos tenus après les bombardements israéliens la nuit dernière, pas moins de 5 frappes dans la banlieue sud de Beyrouth, la Dahiya, le bastion du Hezbollah dans la capitale libanaise, après un préavis lancé par un porte-parole de l'armée israélienne. Israël dit avoir visé des installations souterraines utilisées par le mouvement chiite pour la fabrication de drones, une production de masse, des milliers de drones selon l'armée israélienne qui précise dans un communiqué que cela se fait sous la direction et le financement de ce qui est qualifié de groupes terroristes iraniens. Et pour Israël, il s'agit d'une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu signé avec le Liban. C'est, Charlotte, la 4e fois que l'aviation israélienne cible ce secteur depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 27 novembre dernier.
Michel Paul, en direct de Jérusalem. Israël également sur le front de Gaza. L'armée israélienne a lancé là un appel à évacuer plusieurs quartiers de Gazaville, le territoire palestinien affamé en ce jour d'Aïd, la grande fête musulmane. Sachant que la très controversée Fondation humanitaire de Gaza a suspendu ses opérations de distribution alimentaire qui avaient tourné au chaos, ses centres restent fermés jusqu'à nouvel ordre. Témoignage désespéré recueilli à Gaza par Rami El-Megari avec Samy Bourlifa à Jérusalem.
En cette veille de l'Aïd al-Adha, plus importante fête musulmane, sous sa tente de déplacés, Om Mohamed tient à montrer ses casseroles vides. Rien à cuisiner, rien à manger, raconte la veuve, plusieurs fois grand-mère, en colère contre le monde arabe et le monde musulman.
Mes petits-enfants pleurent de faim et je n'ai rien à leur donner. Je n'attends rien des Israéliens, ni eau, ni nourriture. Je veux juste qu'ils nous fichent la paix. Mais les dirigeants arabes, je ne leur pardonnerai jamais. Qu'ils m'entendent, moi, la femme palestinienne. Vous faites semblant de prier, mais ça ne sert à rien lorsque Gaza a faim. Vous faites semblant d'être de bons musulmans, mais ça ne sert à rien lorsque Gaza a soif et vit sous l'oppression.
L'Aïd al-Adha est la fête du sacrifice, mais dans un territoire exsangue, exposé à la famine, sacrifier un agneau dont le prix dépasse les 5 000 $, personne n'y pense, raconte Fares, père de famille.
J'aurais bien aimé accomplir une véritable prière de l'Aïd, mais quelle tristesse, même ça n'est plus possible. On n'a plus de mosquées, toutes les mosquées de Gaza ont été détruites, on va prier dehors.
Rinat, petite orpheline, rêve quant à elle d'une robe pour l'Aïd.
Lorsque papa était en vie, j'avais tout ce que je voulais. Et l'Aïd avec papa, c'était la plus belle fête.
Son père et toute sa famille paternelle ont été tués cette année dans une frappe israélienne. Rami El-Merali, Gaza, Sami Bourkifa, Jérusalem. RFI.
Deux de ses petits-enfants étaient morts précisément à Gaza en octobre 2023. Une grand-mère française accuse Israël de meurtre et génocide. Sa plainte contre X a été déposée aujourd'hui à Paris. En France encore, pas de changement à la tête du Parti Socialiste avec la réélection sur le fil d'Olivier Faure au poste de premier secrétaire du parti. Avec 50,9% des voix face à son concurrent Nicolas Mayer-Rossignol. Donc ça fait 500 voix de différence. Le défi maintenant, c'est la stratégie d'un PS affaibli en vue des prochaines échéances, donc municipales et présidentielles. Débat à suivre lors du congrès prévu la semaine prochaine à Nancy, dans l'Est.
Et c'est dans le sud de la France qu'on retrouve en ce moment une rare concentration de scientifiques spécialistes des océans.
Ils sont plus de 2000 réunis à Nice dans le cadre d'un congrès en amont de la grande conférence de l'ONU sur l'océan à partir de lundi. Ces scientifiques, ils ont publié des recommandations qui seront présentées aux chefs d'État et de gouvernement. Il y a en tout 10 thèmes, Pauline Glaise.
Décarboner le transport maritime, partager les richesses issues des ressources génétiques marines, éliminer certaines subventions qui favorisent la surpêche, voilà quelques-unes des recommandations. Mais le premier thème cité par les deux coprésidents du Congrès, c'est le climat. François Houllier, président de l'IFREMER.
Si on veut qu'il n'y ait pas trop de vagues de chaleur marine, si on ne veut pas qu'il y ait une mortalité massive des coraux, il faut respecter l'accord de Paris, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Et même sortir progressivement des combustibles fossiles. Au sujet de la biodiversité, les scientifiques encouragent les pays à ratifier le traité de la haute mer.
Et c'est très important qu'il soit ratifié, à la fois pour les dispositions qui sont dans le traité, mais aussi parce que le jour où il existera, alors il y aura une COP qui amènera les États à s'engager plus fortement qu'aujourd'hui pour sa protection.
Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au CNRS, insiste aussi pour une accélération de la mise en œuvre de l'objectif de protection des océans. Objectif de 30% en 2030.
Parmi ces 30%, 10% en protection forte. Et là, il y a un énorme travail à faire. Par exemple, en Méditerranée, c'est 0,6% de la Méditerranée qui est protégée de façon forte, ce qui est excessivement insuffisant.
Protéger les océans, cela passe aussi par la lutte contre la pollution plastique. Les scientifiques recommandent d'en réduire la production. Pauline Glaise, Nice, RFI.
Et on vous retrouvera justement à Nice, Anne Cantner, lundi pour des émissions spéciales sur ce sommet des océans.
Mais oui, le temps de prendre le train et de peaufiner un peu tout ça et on se retrouve lundi matin. En attendant, on va parler d'un projet mi-musique, mi-cinéma sur le drame des migrations.
Projet porté par DJ Snake, l'un des musiciens électro-français les plus écoutés au monde. C'est donc un court-métrage d'environ 11 minutes qui a été mis en ligne hier sur YouTube, intitulé Sabali. Ça signifie en bambara patience, mais également immortel. Ce film raconte l'odyssée clandestine d'un jeune Sénégalais qui rêve de rejoindre l'Europe. Le court-métrage a été produit entre la France, le Sénégal et l'Algérie, réalisé par le jeune cinéaste français Valentin Guillot. Edmond Sadaka.
Patience, c'est une rencontre entre ces deux univers que sont l'image et la musique. DJ Snake d'abord, il a ressenti le besoin de raconter les drames de l'immigration dont on parle trop peu, selon lui. Il a dit à nos confrères de Combini.
On ne montre pas assez toute la misère qu'ils sont en train de se taper. Et souvent, c'est les pays de l'Occident qui créent ces guerres-là et après se plaignent que ces gens-là fuient.
Sur le remix de la chanson Sabali d'Amadou et Mariam, le film raconte l'exode de Moudou, interprété par le jeune Alassane Diong et avec dans le rôle du père Omar Sy. 11 minutes sans dialogue, filmé avec beaucoup de poésie par la caméra de Valentin Guillot.
DJ Snake m'a vraiment donné la possibilité d'étendre sa musique pour l'image. Donc on a fait un vrai travail de composition à l'image et pour faire en sorte que finalement ils se répondent tous les deux d'une manière symbiotique.
Ce film, dédié à l'association SOS Méditerranée qui vient en aide aux migrants naufragés, a nécessité 3 ans de travail, dont 3 semaines de tournage au Sénégal.
Sabali, qui est aussi, donc vous l'aurez reconnu, un titre d'Amadou et Mariam. 14h15 ici à Paris. À tout à l'heure, Charlotte Hydrac.
À tout à l'heure.
On va parler de l'actualité sportive maintenant. Bonjour Christophe Diremzian.
Bonjour Anne.
Avec du tennis à Roland-Garros, la finale féminine est connue. Reste à déterminer l'affiche des hommes et il y a de sérieux prétendants.
Le numéro 1 mondial, le tenant du titre, le recordman du monde de victoire en grand chelem chez les hommes. Il y a un quatrième larron qui n'est rien de tout ça. L'affiche du jour en demi-finale, c'est ce soir. Yannick Sinner, l'italien, au sommet de la hiérarchie face au vétéran serbe qui ne fait pas ses 38 ans, Novak Djokovic. Et dans un quart d'heure, Carlos Alcaraz, sacré donc l'an passé, face à Lorenzo Musetti, invité moins surprise dans le dernier carré que Loïs Boisson chez les dames. L'italien de 23 ans est en effet quand même numéro 7 au classement ATP, finaliste à Monte Carlo en avril, déjà demi-finaliste l'an passé, Porte d'Auteuil, et plus récemment à Rome et à Madrid. Mais l'ancien joueur français Arnaud Clément ne le voit toujours pas faire mieux.
Moi, il continue à me surprendre. En fait, l'année dernière, quand il a vu son gros passage, déjà, je me suis dit, ok, très bien, bravo. Mais je le voyais pas aller plus loin, aller plus haut. Je pensais pas qu'il allait être capable de réaliser ce qu'il a réalisé ces derniers mois avec énormément de grosses victoires, références, une grosse régularité. Même si, voilà, son jeu est, on le sait, est peut-être tout à fait exceptionnel sur terre battue. Alors après, vu que je le voyais pas aussi haut, je me dis qu'il est un plus haut que l'année dernière, mais je le vois toujours pas aller plus haut que ce qu'il est maintenant, par contre. Je le vois moins capable de faire mal sur un match en meilleur des cinq manches, dans la durée, à des joueurs comme Alcaraz.
Arnaud Clément avec Eric Mahmoud, qu'on retrouvera normalement dans trois quarts d'heure.
Du foot, l'Espagne écarte la France de la finale de la Ligue des Nations à l'issue d'un match un peu fou à Stuttgart.
Complètement même. 5 buts à 4 pour la Roja, qui s'est d'abord régalée des largesses d'une défense tricolore expérimentale pour mener 4-0, puis 5-1. Les Bleus partis pour couler avec le Titanic avant de se décider quand même à sortir les canots de sauvetage, avec notamment un très bon Ryan Cherki pour sa première sélection, un but et une passe décisive. Mais ce sont bien les coéquipiers du jeune prodige Lamine Yamal, double buteur, qui partent à Munich pour la finale de dimanche. Les tricolores, eux, n'avaient pas pris 5 buts depuis 1969, mais le sélectionneur Didier Deschamps a aussi quand même envie de retenir un côté un petit peu moins sombre.
Beaucoup de bonnes choses à retenir. Il n'y a pas tout à jeter, évidemment, quand vous prenez 5 buts, que vous n'avez pas tout bien fait. En début de deuxième mi-temps, pareil, là, on en prend 2, mais malgré le score large, on a continué sur notre voie en se créant et en marquant enfin des buts. Bon, on les a fait à peine trembloter un petit peu à la fin. Je vais pas avoir le sourire ce soir. Ça devra nous servir, mais on a été punis parce qu'en face, ils ont été très efficaces.
C'est moins qu'on puisse dire. Didier Deschamps avec Antoine Grenier, ça n'est pas tout à fait terminé pour les Bleus dans cette Ligue des Nations, car il y a un match pour la troisième place à jouer contre l'Allemagne dimanche 13h TU, toujours à Stuttgart. Les Espagnols, eux, affronteront le Portugal dimanche à 19h TU et ce sera à suivre en intégralité sur RFI.
Et puis en basket, la grande finale de la NBA démarre fort entre Oklahoma City et les Indiana Pacers.
Premier match de la série, victoire à l'arraché d'Indiana sur le parquet d'Oklahoma, 111-110. C'est un panier du champion olympique américain Tyrese Haliburton à 3 dixième de la fin, qui a éteint un public alors persuadé de la victoire de son équipe, car elle n'avait jamais été menée. Mais le Camerounais des Pacers, Pascal Siakam, 19 points, avait toujours gardé espoir.
Je pense qu'on s'est toujours dit qu'on allait remporter ce match. On ne s'est jamais senti décroché. On s'est concentré sur le plan de jeu et on a continué encore et encore, même si on a commis beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Mais il nous fallait juste passer à autre chose. Avant ce match, j'ai dit à mon équipe que c'était un grand moment. On est tous excités d'être là, mais il ne faut pas s'en satisfaire et jouer un basket simple, car on sait ce dont on est capable. C'était mon message. Nous avons une équipe incroyable avec tellement de joueurs qui peuvent apporter quelque chose. Donc on a percé. On savait qu'au bout du compte, on avait une chance.
Pascal Siakam et les Pacers qui auront l'occasion de creuser l'écart avec Oklahoma City, toujours à Oklahoma, lors du deuxième match de cette finale dans la nuit de dimanche à lundi.
Christophe Diremzian.
RFI. Le Monde à midi.
C'est la fin de la bromance qui avait marqué le début du mandat de Donald Trump. Le président américain et le milliardaire Elon Musk se déchirent en public. Mais c'est pas grave, dit Donald Trump. D'ailleurs, tous les deux doivent se parler dans la journée. Il n'empêche, le ton est monté très haut, très vite. Bonjour Maud Kessar.
Bonjour.
Directrice Espace Euro-Atlantique Russie à l'IRSEM. Vous êtes autrice des livres « Alliance et politique de pouvoir à l'ère trumpienne » et « Les guerres de l'information à l'ère numérique » paru aux presses universitaires de France. Le président américain a menacé de suspendre les subventions et les contrats gouvernementaux. aux entreprises d'Elon Musk. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça signifierait pour Tesla et SpaceX?
Alors, absolument. En fait, ce qui est intéressant dans cette prise de position de Trump, très virulente vis-à-vis de Musk et de SpaceX, c'est davantage finalement la purge qui est à l'œuvre, puisque je vous avais sans doute remarqué que un des proches en fait de Musk, Jared Isaacman, qui est un milliardaire lui aussi, était candidat à la tête de la NASA et il est écarté. Donc en fait, davantage que de soutien financier, c'est plutôt des purges que Trump annonce, donc y compris dans les équipes en fait de Musk. Et ce qui se dessine, c'est finalement l'affrontement pas de deux hommes seulement, Musk et Trump, mais de deux camps, les libertariens soutenus par Musk avec Rand Paul d'un côté et de l'autre les MAGA de toujours, comme Trump et le président de la Chambre des représentants, donc qui s'est également positionné contre Elon Musk.
Est-ce que ça peut avoir des conséquences au sein du Parti républicain, cette division-là ?
Alors, ça peut, sachant que Musk a reçu, donc, comme je le rappelais, le soutien de Rand Paul, qui lui fait partie du Tea Party et qui incarne les libertariens. On sait que les barons de la tech sont des libertariens convaincus, qu'ils incarnent donc ce techno-capitalisme nationaliste fortement libertarien. Ça ne concerne pas qu'Elon Musk, mais l'ensemble, en fait, des grands barons de la tech qui sont venus soutenir Trump. Et ce qui est intéressant, c'est que ces libertariens, donc qui sont un courant finalement minoritaire au sein du Parti républicain, deviennent plus importants avec les barons de la tech. Et pour eux, il y a un point majeur dans ce qu'ils, dans leurs opinions et leurs lignes politiques. Et ce point majeur, c'est le budget américain. Donc, et en cela, ils sont assez cohérents, autant Musk que Rand Paul. Et finalement, Musk, dans cette affaire, peut paraître beaucoup moins fou que Trump ne voudrait le dire, puisque le fait de s'intéresser au déficit budgétaire américain, qui est extrêmement conséquent, puisqu'il se monte à 6,25% donc du PIB, eh bien c'est un dossier majeur. Et donc c'est cela qui pourrait peut-être effectivement faire division, la question budgétaire.
Et c'est ça, parce qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à critiquer ce projet de budget de Donald Trump. Ça pourrait déstabiliser le président américain. Ça peut aller jusque là.
Alors, le déstabiliser, Trump peut paraître inébranlable. Par contre, le contrarier, sans doute, puisque vous avez vu que ce projet de loi, il appelle le Big Beautiful Bill, donc le très beau projet de loi. Comme toujours, c'est comme le Golden Dome. Tout est enrobé d'une rhétorique qui est toujours un petit peu exubérante. Et cela touche aussi toujours à cette personnalité de Donald Trump qui est particulièrement imbu de lui-même et très susceptible. Donc, c'est une ligne de crête que doivent adopter les républicains, loyaux pour rester finalement passer sous le radar des foudres de Trump, ou bien fidèles à leurs convictions et peut-être aux intérêts du pays. Et l'intérêt du pays serait de ne pas creuser davantage le déficit budgétaire. Ça risque de déstabiliser Trump, car lui, il a fait des promesses de campagne. Et il faut que, avant le 4 juillet, il ait pu tenir ses promesses de campagne et donc faire passer son Big Beautiful Bill avant cette date fatidique pour rester crédible auprès de son électorat MAGA.
En tout cas, l'affaire semble avoir été assez prise au sérieux puisque hier, les hauts conseillers de la Maison-Blanche ont quasiment tous annulé leur passage à la télé pour se réunir avec Donald Trump. Et puis, Elon Musk n'a pas parlé uniquement du budget. Il a aussi dit que Donald Trump figurait dans les dossiers Epstein. Ces fichiers, ce sont des milliers de documents qui doivent permettre, selon le mouvement MAGA, de déterminer qui était complice ou qui aurait couvert des complices de Jeffrey Epstein, donc cet homme d'affaires qui s'est suicidé en détention juste avant d'être jugé pour une affaire de trafic sexuel de grande ampleur. Est-ce que ça pourrait avoir des conséquences ?
Alors absolument, c'est bon, là on est dans le battage médiatique, Musk sort des dossiers qui pourraient atteindre le président et peut-être atteindre son électorat, mais encore au-delà de ce scandale majeur, ce qui est particulièrement intéressant, comme je le rappelais, c'est ces deux camps qui se forment, donc les MAGA autour de Trump qui vont le soutenir envers et contre tout.
Sur cette question-là aussi ?
Sur cette question-là aussi. Et puis de l'autre côté, les masculinistes blancs les tech guys qui sont déjà très actifs en ligne pour soutenir Musk. Et donc là, on voit qu'il y a une fracture, pas entre deux hommes, mais entre deux courants. Et même sur cette question-là, les masculinistes blancs adeptes de la tech qui soutiennent Musk ont déjà pris position depuis hier, si on regarde ce qui circule sur X, en faveur de Musk. Et ces gens-là sont plutôt des hommes jeunes, blancs, qui font partie de qui ont fait partie de l'électorat de Trump et des MAGA. Et donc là, ça crée une scission. Trump n'est pas à son premier scandale, scandale sexuel, il faut le rappeler. Et de toute façon, il démentira. Et aujourd'hui, on a donc deux courants, l'un qui est porté par Musk et avec des partisans sur X, et l'autre qui est porté par Trump avec des partisans sur Truth Social. Et dans ce monde de la vérité alternative, chacun des deux camps va pouvoir conduire sa vérité et ses messages sur son propre réseau social. C'est aussi ça, la bataille entre Trump et Musk, un clivage donc de l'espace informationnel du camp républicain, MAGA et techno-nationaliste.
Merci Maud Kessar. L'idéologie masculiniste que vous mentionniez, on la voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Elle était aussi au cœur de la série britannique Adolescence qui a été vue par des millions de personnes sur Netflix. Adolescence est sortie il y a quelques mois. Elle raconte en quelques épisodes le meurtre d'une jeune fille par un garçon de sa classe, un ado radicalisé par cette idéologie masculiniste et incel, cette idée selon laquelle les hommes n'ont pas d'autre choix que de piéger les femmes ou d'être violents s'ils veulent sortir avec elles. La série a eu tellement d'écho au Royaume-Uni que les autorités ont décidé de la diffuser dans les écoles et elle a eu aussi un autre effet, Emeline Vin, celui d'attirer l'attention publique sur la santé mentale des adolescents et des jeunes hommes.
Le regard un peu fuyant, les bras tatoués du prénom de ses deux filles, Ben, à 26 ans. Après une enfance difficile, entre un père alcoolique et décrochage scolaire, il se crée une idée très précise du type d'homme qu'il veut incarner.
Un homme traditionnel qui protège, qui ramène l'argent à la maison, s'assure que sa famille a un toit et de quoi manger. Pour moi, c'est ça, être un homme. C'est beaucoup de pression, mais c'est mon choix. Mais je crois quand même que la société a une responsabilité majeure dans ce qu'on attend d'un homme. How a man should
act or say or do. Et parmi ces attentes, il y en a une qui le touche particulièrement, l'impression de ne pas pouvoir exprimer ses émotions en tant qu'homme.
Ma manière de les gérer, c'était de m'auto-mutiler. Ça n'est pas pour rien que le taux de suicide chez les hommes est si élevé. Nous n'avons personne à qui parler. Pour les femmes en général, vous prenez votre téléphone et vous allez prendre un thé avec des amis. Pour un homme, si j'appelle un pote pour discuter, il se moque de moi.
Après un passage par les drogues et la prison, Ben devient chef cuisinier. Il intègre un groupe de parole pour hommes. Dans ce groupe, son mentor connaît bien le phénomène. Des émotions refoulées, un sentiment d'injustice qui conduisent à la violence, parfois contre soi-même comme pour Ben, mais parfois contre les femmes, surtout depuis MeToo. Chris Hemmings, ex-journaliste devenu thérapeute, intervient dans les établissements scolaires pour lutter contre cette violence.
Ces 10 dernières années, beaucoup a été fait pour aider les femmes. Mais les jeunes hommes voient toujours le taux de suicide, le taux de sans-abrisme, d'alcoolisme, et ils se sentent lésés. Ce qu'ils ressentent, c'est une société qui s'occupe des femmes et des filles et qui se fiche d'eux. Je leur dis, ok, mais les femmes, elles se sont battues pour tout ça. À nous de nous battre.
Mais ce genre d'initiative dans les établissements scolaires reste rare. James McCann, cofondateur d'une ONG baptisée Feminist Men, déplore l'espace laissé aux influenceurs misogynes sur les réseaux sociaux.
Certains hommes se sentent seuls, isolés, se demandent comment naviguer dans un monde qui a tellement changé et qui fournit une information accessible. Malheureusement, ce sont ces individus misogynes qui font des femmes un bouc émissaire. Il est là le problème.
Parmi les solutions évoquées par les associations, plus d'investissement pour la santé mentale des hommes, qui représente encore les trois quarts des suicides, et plus de modération sur les réseaux sociaux, voire des restrictions d'accès pour les plus jeunes. Emeline Vin, de retour de Brighton, RFI.
Un reportage à réécouter quand vous le voulez sur l'application RFI Pure Radio. Vous restez avec nous, on se retrouve dans 30 secondes pour l'actualité africaine. A tout de suite.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain ? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.